Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Vous est-il déjà arrivé de reposer ce paquet de biscuits bio qui avait l'air tellement sain et qui affichait tout de même un C ou un D coloré sur son emballage? L'avez-vous tout de même acheté avec une petite pointe de culpabilité? Ce matin, coup de projecteur sur le Nutri-Score, cet étiquetage nutritionnel qui classe les aliments de A à E, du vert au rouge, du très bon au moins bon sur le plan de la santé. Un étiquetage qui fournit une information immédiatement compréhensible aux consommateurs sur des bases scientifiques. Nous verrons comment fonctionne ce classement des aliments mis au point par le Programme National Nutrition Santé, à qui l'on doit le fameux slogan 5 fruits et légumes par jour, fondé sur des bases scientifiques. Nous vous expliquerons les bienfaits du Nutri-Score, ses limites, ses alternatives, les diverses tentatives des lobbies agroalimentaires pour qu'ils ne voient jamais le jour, des embûches qui n'empêchent pas aujourd'hui les consommateurs de bénéficier d'un repère fiable pour manger le plus sainement possible et de prévenir certaines maladies chroniques. Et vous, faites-vous confiance au Nutri-Score? Est-il une boussole utile quand vous faites vos courses? N'hésitez pas à appeler au 01 45 24 7000 ou à réagir sur l'appli France Inter. Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Vous remplacez cette semaine notre camarade Baptiste Beaulieu. Quel est le menu de votre chronique vers 11h20?
On va parler de quelque chose d'important. Un vrai égoïste respecte l'autre.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Alors pour faire un goûter extraordinaire, mais un vrai goûter, on va prendre un pain de mie. Et puis on va faire un énorme sandwich qui va être en tranches, comme ça, et recouvert d'une crème extraordinaire, et qu'on va laisser au réfrigérateur pour que ça devienne glacé. Et quand on va le couper ensuite en tranches, il va y avoir du crabe, il va y avoir du jambon avec du poulet, il va y avoir des cacahuètes avec du fromage, ça va être très très bon. Alors on va le faire. Hein.
J'imagine le Nutri-Score de ce sandwich préparé par le chef Michel Oliver. Bonjour Serge Arkberg.
Bonjour.
Professeur Serge Arkberg, vous êtes nutritionniste et épidémiologiste à l'université Sorbonne-Nord. Vous avez mené de grandes études épidémiologiques sur les relations entre l'alimentation et la santé. Et vous venez de publier chez Humaine Science « Mange et tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire ». Je signale que l'intégralité des droits est reversée à la Maison d'Izieux et au Mémorial de la Shoah. Bonjour docteur Arnaud Cocolle.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et le traitement du surpoids et de l'obésité, et vous aviez publié en 2018 Bye Bye Maux de Ventre. Alors on va évidemment revenir sur le Nutri-Score que l'on retrouve sur de nombreux emballages alimentaires, mais j'aimerais qu'on s'attarde avant sur votre discipline, la nutrition. C'est une discipline assez jeune, elle naît vraiment à partir des années 60. C'est ça?
Oui, curieusement, cette discipline qui en fait était déjà connue dans l'Antiquité, Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine, a mis beaucoup de temps à émerger comme une véritable science. Et c'est dans les années d'après-guerre que réellement, à partir du moment que les grandes maladies de carence ont disparu, on a pris conscience que la nutrition pouvait être un déterminant important du risque de maladies aussi graves que les cancers, les maladies cardiovasculaires, bien sûr l'obésité, le diabète. Et c'est l'accumulation des travaux scientifiques qui ont permis de prendre conscience que vraiment, ce que l'on met dans notre assiette peut augmenter ou réduire le risque de maladie.
Et puis la nutrition est montée en puissance depuis un demi-siècle avec l'essor de l'industrie agroalimentaire.
Oui, exactement, puisque la masse des aliments qui sont mis à la disposition aujourd'hui a fini par soulever un certain nombre de questions. Alors que parfois les industriels ne souhaitent pas que l'on pose, mais que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se poser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des aliments que je consomme, que j'achète.
Comment expliquer une relative cacophonie dans votre discipline concernant par exemple le cholestérol? Pendant des années, le gras était diabolisé, puis il fut réhabilité quand on a parlé du bon gras que l'on retrouve dans les oméga-3, présents dans le lin ou les poissons gras. Vous comprenez cette insécurité du public autour de l'information nutritionnelle où les citoyens, les consommateurs ne savent plus à quel sein se vouer?
Oui, tout à fait. Pendant très longtemps, en effet, il y a eu cette cacophonie. Alors, il faut maintenant relativiser parce que les choses sont beaucoup plus claires, les travaux scientifiques sont beaucoup plus nombreux, cohérents et permettent réellement de déboucher sur des recommandations qui soient vraiment scientifiquement établies. Et cette cacophonie vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui s'expriment, les industriels, la publicité, les nombreuses visions qu'il peut y avoir de la nutrition. Ça, c'est qu'au travers du plan national nutrition santé, depuis une vingtaine d'années, il y a un organisme officiel qui fournit des recommandations qui s'appuient sur des données scientifiques probantes et fiables.
Votre regard, docteur Arnaud Coccol.
Oui, je suis entièrement d'accord sur la cacophonie nutritionnelle qui a été amplifiée, y compris par les nutritionnistes. Alors, je pourrais même faire mon mea culpa, parce que c'est vrai que je ne croyais absolument pas, il y a quelques années, au Nutri-Score, c'est-à-dire je pensais que ça allait rajouter à la cacophonie, parce que je pensais que ça pouvait rajouter à la confusion. Bon, et je pense maintenant que le Nutri-Score, c'est bien qu'il soit là. Donc, il a le mérite d'exister et de permettre, en fait, peut-être aux consommateurs perdus dans cette jungle alimentaire, de s'y retrouver ou d'avoir un semblant de chemin plus régulier et plus valide.
Rappelez ce qu'est le Nutri-Score, tout de même, c'est vous l'inventeur de cet étiquetage nutritionnel.
Alors, même s'il y a beaucoup de science derrière, c'est un outil de bon sens. C'est en fait traduire les données qu'il y a sur les tableaux nutritionnels à l'arrière des emballages, qui sont des tableaux incompréhensibles, souvent illisibles, avec plein de chiffres, des pourcentages, des colonnes, des termes ésotériques, sous forme d'un indicateur synthétique, coloriel, mis sur la face avant des emballages des aliments, comme vous l'avez rappelé, allant du vert au rouge, de A à E, 5 pastilles de couleur, et qui permet d'un simple coup d'œil au consommateur de pouvoir saisir la composition nutritionnelle de l'aliment, et surtout de pouvoir comparer les aliments entre eux, c'est-à-dire entre différentes crèmes dessert, différentes céréales petit-déjeuner, différents plats cuisinés, il va rapidement voir celui qui a la composition nutritionnelle la plus favorable.
Oui, ça c'est important. Alors, il faut bien que les auditeurs sachent que ça permet de comparer des aliments de la même gamme et non pas des aliments de gamme différente. C'est-à-dire, on va pas comparer de l'huile avec des céréales, on va pas comparer des céréales avec de la pâte à tartiner. Donc, ça doit rester dans la même catégorie. C'est ça qui est extrêmement important. L'un des bémols aussi, c'est que c'est calculé pour 100 grammes. Donc, c'est vrai que pour moi, en tant que nutritionniste, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment raisonner par la portion. Parce qu'on consomme pas forcément 100 grammes d'huile, on consomme pas forcément 100 grammes de pâte à tartiner.
J'en connais.
Donc, la notion de portion est extrêmement importante. Bon, mais comme je disais, le Nutri-Score, au moins, elle mérite d'exister.
Professeur Herberg, sur ce bémol.
Alors, oui, c'est une question qui est souvent posée. Si aujourd'hui les autorités de santé publique recommandent de faire des logos nutritionnels qui s'appuient sur 100 grammes, c'est parce que ça donne un dénominateur commun qui permet facilement de comparer, en effet, 100 ml d'huile d'olive à 100 ml d'huile de palme ou 100 ml d'huile de tournesol ou 100 ml d'arachide ou 100 grammes de céréales fourrées chocolatées à 100 grammes de muesli. Si on s'appuie aux portions, ce qui serait en effet un idéal, ce serait une bonne chose. Mais c'est impossible à faire parce que c'est impossible de fixer les portions. Ça dépend de l'âge, du sexe, des circonstances physiologiques de la vie. Est-ce qu'on est sédentaire, des femmes enceintes, etc. C'est en plus très difficile pour un consommateur d'évaluer une portion. Comment calculer 30 grammes de roquefort, 40 grammes de mimolette ou 35 grammes de rillettes? Donc, pour des raisons à la fois pragmatiques, conceptuelles et scientifiques, on recommande aujourd'hui d'utiliser 100 grammes, ce qui facilite un dénominateur commun permettant les comparaisons indépendamment donc des portions.
Professeur Serge Herberg, le cœur de votre livre, eh bien, ce sont tout de même les campagnes de désinformation et de lobbying contre ce Nutri-Score. Quelle aventure avant d'y parvenir à ce Nutri-Score, que d'embûches et de choses trappes, hein.
Oui, tout à fait. C'est quasiment un roman, une saga, l'histoire du Nutri-Score, puisque lorsque cette proposition a été faite sur la base de très nombreux travaux scientifiques montrant son intérêt et son efficacité, on a eu affaire à des lobbies qui se sont mobilisés. Donc, dès 2014, quand la ministre de l'époque a officialisé son intérêt pour le Nutri-Score. Et pendant 4 années, on a eu en effet tout ce qui était possible avec les manœuvres, les manipulations, les pressions politiques, l'instrumentalisation, les réunions secrètes. Enfin, c'est vraiment une histoire assez rocambolesque pour essayer d'empêcher qu'apparaisse le Nutri-Score ou qu'il soit au moins retardé dans son application.
Et il ne s'agit vraiment pas d'un ouvrage consacré, enfin, complotiste.
Pas du tout.
Les lobbies que vous dénoncez existent vraiment. Ils se sont mis sur le chemin de votre Nutri-Score.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai été directeur d'une équipe de recherche, j'ai présidé le programme national nutrition santé, donc j'étais un peu dans les coulisses. Et ce que je décris, c'est vu de l'intérieur ce qui s'est passé au travers des documents auxquelles on a pu avoir accès, ou des manœuvres qu'on a pu enregistrer. Donc ça n'est absolument pas de l'invention, c'est basé sur des faits, mais c'est en effet une histoire dans laquelle il y a eu énormément d'opérations, de tentatives de déstabilisation.
Alors parmi ces lobbies peu connus du grand public, l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires, qui rassemble plus de 17 000 entreprises réparties sur tout le territoire national, un chiffre d'affaires d'environ 180 milliards d'euros par an et qui rassemble environ 430 000 emplois. À côté de l'ANIA, on retrouve également la Fédération du Commerce et de la Distribution avec un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros et 750 000 emplois. Je vous propose d'écouter ce que disait Catherine Chapalin, qui dirigeait l'ANIA en 2014 à propos du Nutri-Score.
Pour rencontrer les industriels de l'alimentation, ça se passe ici, au siège de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. À sa tête, Catherine Chapalin. En France, c'est elle qui représente les intérêts de Coca-Cola, Danone, Mars, Nestlé ou encore Kellogg's.
Bonjour.
Bref, le lobby de l'agroalimentaire, c'est elle. Et le secteur pèse lourd, 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Je voulais vous montrer un logo qui pourrait, je pense, répondre à l'attente des consommateurs. On l'appelle le logo 5C ou le logo 5 couleurs. On voit très bien A, vert, B, jaune, C, orange, D, rose et E, rouge. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce logo ?
Alors, déjà, je voudrais rappeler que nous sommes favorables à une information qui soit plus claire et plus compréhensible pour le consommateur.
Oui, vous venez de le dire.
Aujourd'hui, nous considérons que le fait d'enfermer notre modèle alimentaire, nos produits alimentaires dans un système de feu, enfin de logos colorés, c'était pas forcément une bonne idée. On pensait que, par exemple, sur les rillettes, le saucisson, le chocolat, le caramel au beurre salé, c'était peut-être pas une bonne information pour le consommateur.
Vous ne le trouvez pas simple ?
Non, je ne le trouve pas simple.
Ah, vous le trouvez pas simple ?
Catherine Chapalin, qui dirigeait l'ANIA en 2014 jusqu'en 2021, et c'était dans Cache Investigation sur France 2 en septembre 2014. Professeur Herberg.
Oui, alors on retrouve tous les éléments de langage que les lobbies veulent utiliser lorsqu'ils essayent de déstabiliser une mesure qui les gêne. Donc, alors simpliste, curieusement, alors qu'il est simple, extrêmement simple, vous l'avez rappelé, il est intuitif, compréhensible par tous, réducteur, stigmatisant, culpabilisant. On essaye de faire passer les nutritionnistes de santé publique comme des hygiénistes, liberticides,
des moralisateurs.
Des dictateurs. Donc ça, c'est cette tentative de faire croire que ça nuit aux libertés individuelles.
Mais vous apparaissez comme au PNNS, le Programme National Nutrition Santé, comme des empêcheurs de jouir de la nourriture en paix.
Oui, des empêcheurs de s'alimenter en rond. Et donc, comme si le consommateur était souverain, comme s'il n'y avait pas de publicité qui pousse à consommer des aliments particulièrement gras, sucrés ou salés, comme si, quand on est dans, comme disait Arnaud Cocolle, dans la jungle des supermarchés, des étagères, les produits étaient mis au hasard. Donc, non, on fait croire que le consommateur est libre, souverain, alors qu'il est conditionné. Dès qu'on veut toucher à ce conditionnement, on se heurte à des problèmes.
Alors, parmi les mesures qui ont dérangé les lobbies agroalimentaires ces dernières années, au-delà du Nutri-Score, bien évidemment, les problèmes liés à la publicité alimentaire pour les enfants. Vous avez été un acteur pour lutter contre ces publicités.
Oui, alors là, c'est un sujet extrêmement complexe depuis très longtemps. Et c'est vrai que toutes les tentatives que l'on a faites de réguler la publicité, parfois soutenus par des politiques, des parlementaires, se sont heurtés non seulement au lobby de l'agroalimentaire, mais également au lobby de l'audiovisuel. Donc vraiment beaucoup de poids lourds, et on n'a jamais réussi dans ce domaine.
Et les lobbies agroalimentaires n'ont pas toujours le dernier mot. En 2005, une loi interdit les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans les établissements scolaires.
Alors oui, on a quelques victoires quand même en santé publique, mais elles sont rares, celle-ci en est une, grâce à l'engagement d'un député courageux qui s'est battu contre les lobbies, avec le soutien donc des scientifiques, mais ça a été très compliqué avec des intimidations, de la manipulation, etc.
Rappelez-nous à ce stade de l'émission, avant d'écouter le premier CD, l'objectif de ce Nutri-Score in fine, ça sert à quoi ? Pourquoi avez-vous mis en place ce Nutri-Score sur des bases scientifiques ? On reviendra tout à l'heure sur ces bases scientifiques. C'est quoi l'objectif ?
Alors, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux consommateurs d'orienter ses choix, s'ils le souhaitent, vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, également grâce à la transparence affichée et à la compétition qui peut exister entre les entreprises, et bien essayer de pousser les industriels à une reformulation et à de l'innovation. Il faut se rappeler qu'on est dans des grands enjeux de santé publique, hein, cancer, maladie cardiovasculaire, obésité ou diabète. Donc, c'est pas un gadget, c'est quelque chose qui est utile et qui a démontré qu'il permettait aux consommateurs d'orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité.
Docteur Cocol.
Alors, le Nutri-Score n'existe que pour les produits transformés, ultra transformés, il faut le rappeler. C'est-à-dire tout ce qui est brut, c'est-à-dire les fruits et légumes dont on vante les mérites, vous vous rappeliez en introduction, les 5 fruits et légumes différents par jour, sont extrêmement importants. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est-à-dire aller vers une nourriture la plus brute et la moins transformée possible. Là, il n'y a pas de Nutri-Score, là, par contre.
On y reviendra tout à l'heure. Dans quelques instants, vous verrez comment fonctionne le Nutri-Score et quels sont ses véritables bienfaits sur notre santé. 10h22, eh bien il est temps de fredonner Please Mr. Postman des Marvelettes. Écoutez, les Marvelettes, Please Mr. Postman, c'est toute votre jeunesse ça, docteur Adrien Chaboch.
Complètement, mais je pense que j'étais déjà âgé.
Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche.
Grand bien vous fasse.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans?
Sire, enfin vous arrivez pour me sauver.
Ali Rébéi.
J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux.
Sur France Inter.
10h24, à quoi sert le Nutri-Score, cet étiquetage nutritionnel coloré sur nos emballages? Sur quelle base sont classés les aliments? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli France Inter.
C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Et nous pourrons comparer. Parce que notre alimentation a un impact sur notre santé et que nous voulons plus de transparence, pouvoirs publics, consommateurs, fabricants et distributeurs ont créé le Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux.
Alors, professeur Serge Erkberg, je rappelle que vous publiez « Mange et tais-toi » et vous êtes le créateur de ce Nutri-Score. L'idée de base du Nutri-Score était simple et de bon sens, traduire sur les emballages le tableau de composition nutritionnelle obligatoire et souvent difficile à comprendre en logo synthétique, simple et facile à interpréter. Mais alors, quelles sont les bases scientifiques du Nutri-Score? Comment sont classés les aliments A, les plus favorables sur le plan nutritionnel, et ceux classés E, qui ont une moins bonne qualité nutritionnelle? C'est quoi les bases scientifiques?
Alors, le Nutri-Score repose sur un algorithme qui prend en considération à la fois les éléments nutritionnels qui sont dans les aliments favorables ou défavorables à la santé. Donc, parmi les éléments défavorables, le gras, le graisse saturée, le sucre, le sel, les calories par 100 grammes. Par rapport aux éléments plutôt favorables, c'est le pourcentage de fruits et légumes éventuellement qu'il y a dans le plat, les fibres, les protéines, les légumes secs, le pourcentage d'huile d'olive, par exemple, qui est à l'intérieur de l'aliment. Tout ceci combiné, point positif et point négatif, ça vous donne une note globale pour laquelle des travaux scientifiques ont permis de valider...
Robuste, des travaux scientifiques robustes.
Extrêmement robuste. Il y a très nombreux travaux faits par nos collègues de l'Université d'Oxford, faits dans différents pays et notamment par notre équipe de recherche de l'INSERM en France, qui ont permis donc d'attribuer à chacun de ces points une correspondance dans une catégorie. Alors ça a été validé par le Haut Conseil de la Santé publique, donc il y a eu toute une démarche scientifique derrière. Et plus d'une cinquantaine de travaux scientifiques montrant son intérêt et son efficacité.
Docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste.
Oui, c'est ce qu'on appelle en fait un nudge. Le nudge, c'est les coups de pouce. Donc quand vous avez le Nutri-Score, ça vous incite en fait, alors c'est une attitude paternaliste, c'est peut-être ça qu'on peut avoir comme reproche. Parce que on vous incite à faire des choix qui sont censés être des choix éclairés. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui peuvent se dire « on m'enlève une part de liberté ». Et l'une des manifestations aussi que j'ai chez certains patients, c'est que certains patients sont orthorexiques.
Oui. C'est-à-dire expliquez ce que c'est.
Alors, c'est rentrer vraiment en religion vis-à-vis de leur nourriture. C'est-à-dire que
c'est l'obsession de manger sain.
Manger droit, sain, tel qu'on le dit. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le Nutri-Score soit A et avec la couleur verte, etc.
Et ça, vous le constatez dans votre cabinet?
Oui, alors c'est pas une généralité, mais j'ai quand même une certaine tendance qui a pu s'amplifier aussi avec la crise Covid. Parce que il y a des gens qui sont extrêmement inquiets par rapport à la Covid, parce qu'ils ont entendu dire que paf, surpoids et obésité, ils sont plus à risque en cas de Covid d'avoir des formes graves. Donc ils se mettent à vouloir manger dans les rails. Et c'est parfois extrêmement rigide. Rigidifiant pour eux, donc cette attitude. Rigidifiant, c'est un peu cocolle comme expression, mais c'est rigide un petit peu.
Professeur Herberg.
Oui, c'est une vraie question et c'est pour ça que l'on compte à la fois sur les professionnels de santé, les acteurs proches du public, ainsi que la communication qui est faite pour rappeler que le Nutri-Score, c'est un simple élément d'information qui permet aux consommateurs d'avoir une idée précise de la composition nutritionnelle. C'est pas un dogme ni une obligation. On fournit une information que le consommateur intègre ou non s'il souhaite dans ses choix alimentaires et en rappelant que manger des produits DE, c'est tout à fait possible dans une alimentation équilibrée. Simplement, ça l'alerte qu'il faut pas le consommer, ce produit, en excès, trop fréquemment.
J'ai peur aussi, malgré tout, c'est de la multiplication des scores. C'est-à-dire, je voudrais pas que dans le futur, les emballages se transforment à l'américaine. C'est un petit peu ma crainte. C'est pour ça que j'avais cette crainte avec le Nutri-Score. Il faudrait que juste le Nutri-Score figure. Parce que quand je vois l'éco-label qui commence à arriver, etc., ça fait une multiplication et les gens sont perdus face aux emballages. Donc, il faudrait qu'on reste sur le Nutri-Score et que le reste ne figure pas. Pour que l'emballage soit le plus simple possible pour le consommateur.
Docteur Adrien Chaboche.
Oui, parce que sur le terrain, effectivement, moi, je suis pas nutritionniste, je suis médecin généraliste, mais je vois des patients qui viennent me voir et qui se posent des questions sur leur nutrition. Et je crois qu'on part vraiment, mais alors vraiment de très très loin. Donc cette innovation, parce que c'en est une, avec beaucoup de combats derrière, il faut quand même l'encourager, on peut pas dire le contraire. Quand on sait quand même qu'entre 99 et 2015, on est passé de 1,8 à 3,3 millions de patients diabétiques en France. C'est inimaginable. Le diabète, je rappelle, une maladie qui peut être prévenu avant l'apparition de la maladie en elle-même.
Le diabète de type 2.
Hein. Type 2, effectivement, merci Ali, de votre précision. Bon, mais on peut empêcher. Et ça passe par quoi? Par une activité physique, par une compréhension nutritionnelle de ce que l'on fait, et par de bien dormir, etc. Bref, une hygiène de vie globale.
Oui, tout à fait. Face à des intérêts purement économiques de certaines grandes sociétés, il y a des enjeux de santé publique extrêmement importants. Et il est vrai que le Nutri-Score à lui seul ne va pas résoudre tous les problèmes de nutrition. Mais c'est un élément qui est extrêmement simple, extrêmement utile aux consommateurs, qui combiné à d'autres actions et d'autres mesures peut permettre réellement d'avoir un impact sur la santé.
Oui, on voit qu'on est arrivé face à une industrialisation de l'alimentation. C'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'actuellement, je reprends le terme de Paul Ariès il y a quelques années, c'était la McDonaldisation de l'alimentation. Même si j'ai rien contre cette marque en particulier, mais pour vous faire comprendre, en fait, qu'on rentre maintenant dans une alimentation qui s'éloigne du naturel. Et je pense, en tout cas à mes patients, je leur dis, il faut revenir vers le naturel.
Et nous allons écouter une note vocale laissée par Thérèse.
Je suis plutôt sensible au Nutri-Score quand je fais mes courses, je regarde. Il y a deux produits à peu près équivalents. Effectivement, ça va être un élément d'aide pour ma décision. Et j'ai un petit garçon qui a 5 ans et qui, quand on mange, regarde le Nutri-Score sur les emballages en disant ben ça, il faut en manger beaucoup, ça, pas trop. Voilà, donc ça commence à faire sa place à la maison.
Bonjour Nathalie, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Cambrai, vous vous reconnaissez dans le témoignage de Thérèse ?
Oui, complètement.
Racontez-nous. Oui. Vous avez 4 enfants, oui. Hein, c'est ça ?
Moi, j'ai 4 enfants actuellement. C'est de 20 ans à 10 ans. Mm-hmm. Et pour moi, c'est réellement un enjeu de santé de bien manger. Mm-hmm. Donc, je cuisine beaucoup. Et le peu de choses que j'achète, comme des gâteaux ou des céréales pour le petit déjeuner, mm-hmm. je ne prends que du A ou du B. Mmh. C'est indispensable pour moi de regarder ce score. Mmh.
Vous voyez des effets un peu sur votre santé. Est-ce que vous constatez quelque chose, même si c'est avec le doigt mouillé évidemment, hein, mais est-ce que cette attention au Nutri-Score et aux aliments classés A ou B, y a un impact sur votre santé, vous le sentez ou pas?
Ben moi, j'ai des enfants en parfaite santé qui sont jamais malades. Mmh. Je touche du bois et ils ont un IMC qui est correct également. Mmh. Donc, ils pratiquent du sport. En fait, tout ça, c'est un tout, en fait, je pense.
L'IMC, je le rappelle, c'est l'indice de masse corporelle. Professeur Herberg, sur ces deux mères de famille qu'on vient d'entendre et qui sont très sensibles à ce Nutri-Score.
Alors, ce sont de bons exemples de ce que peut apporter le Nutri-Score. C'est une aide à la décision lors du choix alimentaire et lors de la consommation, en sachant que parfois il est difficile de voir l'impact immédiat sur la santé, mais on a beaucoup de travaux faits sur des très grandes populations, dont deux études sur plus de 500 000 personnes suivies dans 10 pays européens pendant 17 ans, qui ont montré que le fait de manger des aliments qui seraient bien classés par le Nutri-Score réduisait le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité ou de diabète.
Merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelé. Nous accueillons Pascal. Bienvenue Pascal.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Alors vous, est-ce que vous utilisez le Nutri-Score ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Alors juste, peut-être avoir un petit discours nuancé, je conteste pas du tout l'utilité du Nutri-Score. Mm-hmm. Il se trouve que moi, je m'intéresse à la nutrition depuis fort longtemps. Mm-hmm. C'est pas du tout mon métier, mais j'ai 62 ans et je m'intéresse à la nutrition à peu près depuis mon adolescence. Mmh. Et ce qui me dérange un peu dans le Nutri-Score, c'est le côté un peu prêt-à-penser. Mmh. Et c'est pourquoi je trouve important, et d'ailleurs ça a été fait ce matin avec vos invités, de bien remettre un petit peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire que c'est une aide pour les gens qui peut-être ne s'intéressent pas tellement à la nutrition. Mais je suis quand même, moi, très partisante de promouvoir, en fait... l'éducation à l'alimentation auprès des enfants de façon très jeune. Je pense que c'est important qu'on comprenne que on devient ce que l'on met dans son assiette.
Mmh. Docteur Arnaud Cocol.
Ah oui, je rejoins entièrement l'auditrice à l'instant. Je voudrais également dire, au niveau du Nutri-Score, ça prend pas en compte les additifs et les conservateurs. Ça, c'est l'un des bémols. Et actuellement, il y a des industriels qui font tout pour s'arranger pour arriver dans la lettre A ou la lettre B, parce que c'est vendeur. Donc on voit qu'il y a des réflexes parfois comme ça. Mais dans les formulations, on retrouve de la lécithine de soja, la maltodextrine, etc.
Donc des édulcorants.
Des tas de substances qui peuvent poser problème. Par exemple, la lécithine de soja impacte le microbiote, c'est-à-dire notre flore digestive, et pourrait déclencher des diabètes de type 2.
Réponse du professeur Herberg.
Alors oui, un logo nutritionnel, ça renseigne sur les éléments nutritionnels, pas sur d'autres éléments comme les additifs, l'ultra-transformation ou les résidus de pesticides. Donc, il ne faut pas demander plus au Nutri-Score qu'il ne peut apporter, mais c'est déjà beaucoup.
Oui.
Parce que si déjà on a l'information sur la composition nutritionnelle globale, Après, il y a la liste des ingrédients qui permet d'éviter les produits qui ont beaucoup d'additifs. Donc ça, c'est un élément bien sûr important. Mais c'est un élément qui aide si le consommateur en a envie. C'est absolument pas une obligation. Et l'auditrice l'a dit, elle connaît bien la nutrition, elle s'en passe, tant mieux pour elle. Mais pour beaucoup de personnes, ils n'ont pas peut-être ni la connaissance, ni le temps. Et donc là, c'est un outil extrêmement précieux.
Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir appelés. Et nous accueillons un éleveur de veaux, fidèle auditeur de Grand Bien Vous Fasse, Franck Thérieux. Vous habitez Quessac, en Corrèze. Vous êtes de passage à Paris pour le Salon de l'Agriculture. Vous y allez tout à l'heure. Quel regard portez-vous sur le Nutri-Score?
Bien, je pense que, comme l'a dit le professeur, le Nutri-Score est fait pour éduquer les personnes qui sont en manque de repères. Mais je pense que le bon sens paysan, c'est de cuisiner soi-même, si on peut, hein, d'acheter des bons éléments, faire attention à ce qu'on achète. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas se payer du veau sous la mer élevé la belle rouge. Je les incite pourtant fortement. Mais ceci dit...
Vous ne l'utilisez pas, le Nutri-Score, ou très peu?
J'utilise peu, en fait. Quand mes enfants font leurs 4 heures, ils se remplissent un petit peu de gâteaux qu'ils ont acheté dans les supermarchés, mais malheureusement...
Vous êtes attentif tout de même pour vos enfants?
Ah oui, oui, ouais. Complètement, oui, j'y suis attentif. Après, mon fils qui a 16 ans a une activité sportive intense, il court, il fait du vélo, il fait du foot, enfin voilà, donc lui, il se goinfre, mais ça se
il
voit pas du tout.
Il s'en fiche un petit peu.
Il s'en fiche un peu, mais il est quand même très actif. Ouais. Par contre, il est très, il fait très attention à ce qu'il mange, de manière générale quand même. Il essaye de varier son alimentation. Alors, petit, il était difficile, il sait qu'il faut varier, qu'il faut manger le plus de légumes possible, le plus de fruits possible. Et je pense que c'est vraiment une éducation qui s'acquiert dès le plus jeune âge, comme disait votre auditrice tout à l'heure.
Vous êtes d'accord avec ce que nous dit Jean-Pierre, agronome, qui nous dit qu'on infantilise le consommateur? Est-il si difficile de l'instruire en l'informant que l'on retrouve dans les aliments des protéines, des sucres et des graisses? Le consommateur ne prend pas le rouge sans savoir pourquoi, professeur Herberg?
Je ne pense pas que ça infantilise, c'est quelque chose
qui... Ça revient pas mal hein, dans les courriers ce
matin.
Oui,
c'est souvent un argument qui est mis en avant, mais c'est une information. C'est curieux tout de même de ne pas être choqué par la publicité, les emballages qui mettent en avant plein de fruits dans des aliments qui en contiennent très peu, ou des noms d'aliments qui sont extrêmement évocateurs de la santé alors qu'ils n'ont rien à voir, et d'être choqué à partir du moment qu'on donne une information factuelle, dont le consommateur est en effet totalement libre de l'utiliser ou non, mais avec le prix d'achat, l'attachement à la marque, c'est quelque chose qui peut l'aider.
Question qui revient pas mal ce matin, est-ce que le Nutri-Score est obligatoire sur tous les produits transformés ou est-il facultatif?
Eh bien, il est facultatif, non pas par une absence de volonté de la France de le mettre en place, mais parce qu'une réglementation européenne, poussée au milieu des années 2000 par les lobbies, a empêché les États européen de rendre obligatoire un logo d'information nutritionnelle. Il y a actuellement des discussions au niveau européen pour changer cette régulation, cette réglementation, ce qui a entraîné une levée de bouclier à nouveau des différents lobbies.
Docteur Adrien Chaboch.
Ce qui infantilise, ça serait de considérer que le Nutri-Score est une fin en soi. Or, c'est un moyen, c'est un outil. C'est un outil qui va permettre au patient, à l'individu, de dialoguer, de discuter avec son médecin, avec son entourage, avec un agriculteur concerné. Je vous prends un exemple du terrain très très simple. Un jour, j'ai un patient qui vient me voir, il me dit, alors docteur, moi je suis bien les choses à la lettre, mais j'ai regardé le Nutri-Score, c'était C, et c'était une motte de beurre avec des oméga dedans. Et il me dit, mais je me rappelle que vous m'avez dit que les oméga sont bons pour moi. Et donc il a compris quelque chose, parce qu'on a dialogué, il a dit, bah oui, c'est pas que la note, c'est simplement que ça permet de mettre en valeur et de s'interpeller, de réfléchir et de dialoguer. Donc en cela, c'est un outil plutôt d'élévation du dialogue, et non pas d'infantilisation.
Je vois tout à fait les propos. Je pense que le savoir n'est pas vertical, le savoir doit être transversal. Donc il faut absolument qu'on se parle. C'est-à-dire qu'il y a un éleveur ici, c'est important. Il pourrait y avoir un cuisinier. Bon, on a entendu Michel Oliver, mais ça pourrait être Thierry Marx maintenant, par exemple. Donc des gens qui, en tout cas, qui sont éduqués à l'ouverture d'esprit, qu'on se parle les uns les autres pour le bien, que grand bien nous fasse pour les auditeurs, c'est-à-dire nos patients. C'est-à-dire que les patients, ils ont besoin, effectivement, d'avoir des éclairages. Donc ça aide, c'est l'un des éclairages, mais on ne doit pas les infantiliser en aucun cas.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est utile pour les patients et pour la population en général, même ceux qui n'ont pas a priori de maladie, pour éviter d'en voir apparaître. Mais en effet, bien évidemment, il faut prendre en considération toute la dimension de la nutrition qui fait intervenir de très nombreux acteurs, comme ceci vient d'être rappelé.
Professeur Erkberg, une petite pique de Rix sur notre page Facebook qui nous dit à quoi sert le Nutri-Score ? Eh bien, à culpabiliser le consommateur gourmand. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, on va rassurer tout de suite votre auditeur. Non, ça ne culpabilise pas, simplement, ça attire l'attention. Une fois de plus, on peut manger trois religieuses au chocolat. La nutrition ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Simplement, ce n'est pas à chaque repas et tous les jours qu'il faut le faire. Eh bien, on peut manger des produits DE sans culpabilité. Simplement, savoir que ces produits, il faut en limiter la consommation et ne pas en abuser.
De toute façon, quand vous allez au restaurant, vous mangez du DE sans vous en rendre compte, hein, parfois. Ce n'est pas marqué.
C'est une bonne chose.
Il est 10h41, l'heure de retrouver la chronique du docteur Adrien Chaboch.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Docteur Adrien Chaboch.
Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Qu'est-ce que c'est que cette situation ? Ali Rebéi, Serge Akberg, Arnaud Cocol. Mais n'avez-vous pas l'impression d'une drôle d'ambiance autour de nous ?
Un petit peu.
Je ne vous parle pas de la drôle de guerre, hein. Vous savez, cette période du début de la Seconde Guerre mondiale où les Alliés étaient restés comme sidérés, sans oser agir face à l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne nazie. Non, je vous parle d'abord de cette drôle d'ambiance. Mes patients m'apprennent tous les jours bon nombre de choses qui m'aident à mieux les soigner, et c'est assez fantastique. Mais aussi, ils m'informent de ce qui se passe dans la société. Je n'ai pas les oreilles du KGB, vous me direz, et tant mieux d'ailleurs, car j'ai l'avantage d'avoir une radio sociale tous les jours devant moi. Parfois, j'entends qu'il y a un sujet de société quand un nombre significatif de patients m'en parle. C'est la fonction sociale du médecin généraliste. Et jamais, jamais, Ali, jusque présent, je n'avais entendu mes patients m'interpeller autant en répétant les mêmes mots. Docteur, il y a une telle énergie négative en ce moment. Docteur, j'ai l'impression d'être dans un monde kafkaïen. Ici, j'ai Julia, qui ne peut pas poursuivre ses études à Londres, car ayant été infectée de la Covid, elle doit attendre un délai de 3 mois en France pour avoir sa 3e dose de vaccin, sauf que de l'autre côté de la Manche, l'infection ne compte pas pour valider le pass vaccinal. Là, j'ai Elisabeth, qui fait un syndrome post-Covid gravissime, alitée chez elle depuis 6 mois, et qui est refusée par les hôpitaux et les centres de rééducation parce que quoi ? Parce qu'on manque de place. Là encore, Christelle, à qui l'Organisme National de Sécurité Sociale dit que le burn-out n'étant pas reconnu, on va avoir du mal à la prendre au sérieux. À moins finalement de lui dire qu'elle ne serait que dépressive. Mais quelle atmosphère lourde, parfois dérisoire, jusque absurde dans cette actualité sanitaire et politique. Alors quoi ? C'est ça ? C'est de ça dont nous, êtres humains, on se vante d'une grande intelligence ? D'une intelligence qui nous distinguerait de l'animal, lui si bête ? Eh bien moi, je n'ai jamais vu un ours polaire faire fondre sa banquise. J'ai jamais vu un panda faire brûler sa forêt. Et encore moins un castor détruire son voisin en oubliant que le barrage qui cède va l'engloutir lui-même. Mais je ne crois pas que Poutine ressemble à un castor, c'est vrai. Et moi je me demande si je ne voudrais pas être un peu plus bête. Parce qu'être bête nous rappelle nos besoins vitaux. Avant tout, qu'est-ce qui nous fait vivre ? Eh bien déjà, respirer. Nous n'avons que 3 minutes de survie sans air, je vous rappelle. C'est-à-dire moins que cette chronique. Puis boire. C'est vrai, à chaque fois qu'on boit un verre à la fontaine du bureau, on ne se dit jamais « Ah dis donc, heureusement, hein, dans 2 jours j'étais mort, tu imagines ?» Dormir, notre 3e besoin vital, dont on oublie qu'on peut en mourir en quelques jours si on en est privé. Manger, bien sûr, avec un bon Nutri-Score. Et bouger, car notre corps est fait pour le mouvement. Ça nous fait donc 5 besoins vitaux. Mais Ali, ne serions-nous pas en train d'en oublier un autre ?
Ben oui, l'autre. Voilà.
Voilà, l'autre, toi, vous, ce qui fait que je suis moi. C'est cet autre avec qui on joue, on travaille, on rit, on couche, on se fâche, on se parle, on cède. Alors en pensant vraiment à soi, on pense à l'autre. Sans l'autre, pas de soi. Notre nombril, c'est le sien et ce qu'il a de différent pour que nous soyons tous un. Alors je vous propose une bonne primitivité, vitale, altruiste, un égoïsme positif qui respecte l'autre. Soyons bêtes, ça rend intelligent. Le vrai égoïste, respecte l'autre.
La chronique d'Adrien Chaboch que vous pouvez podcaster et réécouter sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, on continue à explorer les bienfaits du Nutri-Score qui vous fait beaucoup réagir ce matin. Ce sera juste après Étienne Dao, Virus X à 10h45.
Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi et je lèche le sang de cruels ennemis. Me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex, ton cœur bat la chamade. Les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade. Le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex, nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles surveille. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille.
Virus X. Étienne Dao interprété Virus X.
Grand bien vous fasse. Ali Rébé. Sur France Inter.
À quoi sert le Nutri-Score? C'est notre question ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message sur l'appli France Inter. Marie-Lise nous demande ce que vous pensiez des nouvelles applications de scan de produits alimentaires comme Yuka. Professeur Serge Ergberg, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors les applications ont un intérêt parce qu'ils sensibilisent les consommateurs, les pouvoirs publics et même les industriels. Mmh. Et puis ça permet de contourner parfois le Nutri-Score lorsque les entreprises refusent de le mettre sur les emballages des aliments. Encore faut-il qu'elle soit réellement scientifique. Alors le problème de Yuka, c'est qu'il mélange un peu les choux et les carottes dans le sens qu'il donne une note agrégée pour le Nutri-Score, plus les additifs, plus le bio, avec des pourcentages 60-30-10 qui reposent pas sur des bases scientifiques. Donc c'est peut-être un peu discutable, même si c'est quand même utile. Mais il y a quelques applications qui donnent factuellement à la fois le Nutri-Score, la classification Nova sur le degré d'ultra-transformation.
Tiens, justement, qu'est-ce que vous pensez du système Nova mis au point par les chercheurs de l'université de São Paulo au Brésil? Un système qui classe les aliments selon leur degré donc de transformation. Dans ce système Nova, il faut d'abord privilégier les aliments bruts ou peu transformés. Dans le groupe 2, les ingrédients culinaires. Dans le groupe 3, on retrouve les aliments transformés. Et enfin, dans le groupe 4, les aliments ultra transformés. Qu'est-ce que vous pensez de ce système Nova qui classe les produits transformés?
Alors c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, nous travaillons avec nos collègues brésiliens. Nous avons fait plusieurs études montrant que le fait de manger des aliments ultra transformés a des conséquences sur la santé, notamment en termes de risque de cancer. Mais ça n'est pas la même chose que la dimension nutritionnelle. Il y a des produits ultra transformés qui peuvent avoir une bonne composition nutritionnelle. Puis il y a des produits qui sont mal classés par le Nutri-Score, mais qui peuvent ne pas avoir d'additifs. Ce sont donc deux dimensions différentes et complémentaires qu'on ne peut malheureusement pas agréger, car elles ne se recouvrent pas totalement. Mais on peut graphiquement envisagé d'avoir, par exemple, un bandeau noir pour les aliments ultra transformés autour du Nutri-Score, ce qui serait une aide précieuse. Mais le discours est le même, il faut favoriser les produits bruts, peu transformés, mais si vous prenez des produits transformés ou ultra transformés, prenez plutôt ceux qui ont le meilleur Nutri-Score.
Docteur Arnaud Cocol.
Ce qui n'est pas pris en compte, c'est l'effet matrice. C'est Anthony Sardet,
oui. Qui ingénieur agronome.
Ingénieur agroalimentaire à l'INRA à Clermont-Ferrand, qui en parle beaucoup. Et l'effet matriciel est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous prenez une amande et vous prenez une purée d'amande, la composition est strictement identique. Mais le rendement énergétique ne sera pas le même dans votre corps. C'est-à-dire la transformation ne sera pas identique parce que la purée d'amande, l'étape de prédigestion a eu lieu déjà à l'extérieur par le procédé mécanique. Donc cette notion de mastication et les produits ultra transformés sont généralement en commun d'être mous. Donc vous n'avez plus cet effet de mastication qui est extrêmement important pour nous rassasier et faire en sorte que notre cerveau puisse s'adapter parfaitement à nos besoins énergétiques et donc qu'on soit rassasié. Alors ces produits ultra transformés ont l'inconvénient de ne pas nous rassasier comme il faut.
Franck Thérieux, agriculteur en Corrèze.
Oui, ce que vous dites est intéressant. C'est la même chose lorsque vous mangez une pomme. Vous épluchez une pomme AOP du Limousin, par exemple. Vous la croquez, elle aura une digestion lente. Ça sera plutôt assimilé à un sucre lent. Alors que si vous buvez un jus de pomme, ben on sait que c'est des sucres qui vont se digérer immédiatement. Et ça aura le même effet qu'une marque de soda à bulles bien connue.
Mais comme je dis à mes patients, il y a des pommiers, mais il n'y a pas des arbres à jus de pomme.
Voilà. Tiens, Florent nous dit, et ça revient pas mal aussi ce matin, n'est-ce pas vraiment absurde d'avoir un Nutri-Score sur des produits élémentaires non transformés comme le sucre ou l'huile? C'est pas le cas d'ailleurs, professeur Herberg. On retrouve le Nutri-Score sur les paquets de sucre ou d'huile?
Alors oui, à partir du moment qu'il y a un étiquetage nutritionnel qui a été rendu obligatoire par la Commission européenne, il y a le Nutri-Score. Mais le Nutri-Score est jamais inutile, même si, des fois, il donne des informations que le consommateur connaît déjà, que l'eau soit A ne le surprend pas, ou que l'huile soit moins bien classée. Mais par exemple, entre une huile d'olive, qui sera la mieux classée des huiles, avec l'huile de colza qui sera classée C, et les autres huiles qui vont être classées D ou E, ça permet au consommateur de lui montrer les huiles qu'il faut privilégier.
Il y a des producteurs de fromage, par exemple, qui se sont élevés contre le Nutri-Score, trouvant absurde de retrouver une étiquette D sur du Mont-d'Or, du Beaufort, ou bien du Parmesan. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, oui, mais il est légitime que ces produits soient étiquetés D ou E, ou C dans le meilleur des cas, compte tenu de leur teneur en graisse saturée en sel.
En sel, ouais.
Et l'idée, là encore, c'est pas de dire qu'il faut pas manger de fromage ou pas manger de charcuterie, mais ça alerte le consommateur quand un produit est classé E ou D, de savoir qu'il faut les consommer de façon modérée. Donc c'est quand même extrêmement utile, puis ça permet de discriminer entre les charcuteries ou entre les fromages entre eux.
Votre regard, Franck Thérieux?
Oui, je pense que ce que dit le professeur est intéressant. Au niveau des huiles, c'est pareil. Vous avez l'huile de noix aussi, qui est excellente pour la santé.
Qui est dans la meilleure catégorie possible.
J'ai des noix vers chez moi, c'est pour ça que j'en parle.
Vous avez bien raison.
Mais je pense qu'il y a cette notion de plaisir alimentaire qu'il faut absolument sauvegarder.
Exactement. Et après, je pense que historiquement, le repas, enfin à la campagne, comme ça se faisait chez nous, il y avait une soupe en entrée, souvent à base de légumes, donc c'était pas hyper calorique. Ensuite, une entrée à base de crudité ou de charcuterie. Là, c'est pas du tout le même rendu. Un plat, fromage, dessert. Mais ça, c'est vrai que c'était adapté à...
Dessert fait maison.
Dessert fait maison, oui. Mais
il y a quoi par chez vous, par exemple, en Corrèze?
Il y a une spécialité qui s'appelle les pédenones.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas hyper bon au niveau du Nutri-Score. Hein.
C'est fait maison, au moins.
Et c'est oui,
c'est des beignets.
Oui. Voilà.
Je connais bien. Mais c'est... voilà. Donc... Tiens, je propose d'écouter ceci.
Oui, en choisissant dans un supermarché un soda industriel noté B et un morbier dont le Nutri-Score est D, une plus mauvaise note que le soda, j'ai donc posé la question à plusieurs bisontins. Selon eux, lequel des deux est le meilleur nutritionnellement?
Bah, le morbier, c'est plus naturel.
Quand même, le meilleur, c'est de manger le morbier. Parce que le Coca-Cola, c'est plus industriel que le morbier.
Ah, le morbier, forcément. Il y a un produit industriel, il y a un produit, je pense, un peu plus artisanal. À mon avis, le produit artisanal devrait être mieux noté.
Des consommateurs de Besançon, hein, c'est un son de France Bleu Besançon en janvier 2021. Professeur Herberg.
Alors d'abord, le Coca-Cola est classé E, il est B quand il contient uniquement des édulcorants. Mais le problème, c'est ça ne sert à rien de comparer le Coca-Cola et le morbier. Vous n'allez jamais hésiter entre votre plat principal et le dessert, prendre un verre de Coca-Cola, ou à l'inverse, vous rafraîchir avec un Morbier. Donc il faut comparer les fromages entre eux, il faut comparer les boissons entre elles. À ce moment-là, le Coca-Cola est E, les jus de fruits sont plutôt classés E, C, et l'eau est classée A.
Oui, je voulais intervenir aussi. Souvent, quand vous prenez des menus vite faits, vous avez des formules, et je ne comprends pas qu'à chaque fois que vous prenez ces formules, il y a forcément une boisson sucrée. Au lieu de boire de l'eau, tout simplement en mangeant, ou un verre de vin quand c'est...
Docteur Coco l'approuve, évidemment.
Il y a toujours des boissons sucrées dans ces formules.
Bah oui, comme si les deux tiers du poids du corps, c'était de l'eau avec du sucre. Hein. Donc on rappelle que les deux tiers du poids du corps, c'est de l'eau basique, H2O.
Quel est l'impact du Nutri-Score sur les habitudes des consommateurs? À titre personnel, il m'est parfois arrivé de reposer un produit, car le Nutri-Score était classé D ou E. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cette influence du Nutri-Score? Non, je sais que les industriels s'adaptent à cette influence du Nutri-Score sur les consommateurs.
On sait beaucoup de choses. D'abord, il y a eu beaucoup de travaux scientifiques qui ont montré que quand, dans des conditions grandeur naturelle de vie dans les supermarchés, on affiche le Nutri-Score, les paniers d'achat des consommateurs ont une meilleure qualité nutritionnelle que lorsqu'il n'y a pas le Nutri-Score. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, au travers des statistiques des supermarchés notamment, qui sont disponibles, on voit que les produits D et E sont un petit peu moins consommés, moins vendus, tout est plus exactement, alors que les produits classés A et B sont un peu mieux vendus. Donc, on a un effet significatif sur les choix des consommateurs sans que ne disparaissent complètement les produits D et E et sans que les gens n'achètent que du A et B, bien sûr.
Arnaud Cocol.
L'un des problèmes, malheureusement, c'est le prix. Parce que les produits A ou B, parfois, sont un peu plus chers. Et donc, il y a des consommateurs, du moins, moi, j'ai des patients obèses avec un pouvoir d'achat qui est limité, parfois, qui ont du mal à aller vers ces produits.
Alors, en fait, c'est vrai pour certains produits, mais une étude qui a été faite par l'UFC Que Choisir, les associations de consommateurs soutiennent d'ailleurs beaucoup le Nutri-Score, a montré que les prix moyens des aliments n'étaient pas plus chers lorsqu'ils étaient classés A et B par rapport à leurs équivalents qui sont moins bien classés. Donc, globalement, au niveau des marques nationales et des marques distributeurs, on n'a pas un effet pour l'instant, et on va veiller à ce qu'il n'y en ait pas, sur un impact sur le prix de ces aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle.
À ce stade de l'émission, Damien aimerait que vous rappeliez ce que disent les études scientifiques sur le fait de manger régulièrement les aliments les mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score.
Alors, ça montre plusieurs choses. D'abord, ça montre que généralement, quand on mange des aliments bien classés par le Nutri-Score, on a un état nutritionnel meilleur. On trouve un lien avec un plus faible index de masse corporelle. Lorsqu'on fait des dosages sanguins, on a des teneurs en vitamines, en minéraux plus favorables. Et puis surtout des grandes études de cohortes, c'est-à-dire quand on suit des grandes populations. Bien sûr, il n'y a pas le Nutri-Score dans ces études, mais on peut regarder si les gens qui mangent des aliments qui sont bien classés par le Nutri-Score font moins de maladies que ceux qui mangent des aliments moins bien classés. Et toutes ces études faites en France, en Espagne, dans 10 pays européens, montrent réellement le bénéfice de manger des aliments bien classés par Nutri-Score sur vraiment des maladies aussi importantes que les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou le diabète.
Quand vous voyez de plus en plus de produits qui portent le logo Nutri-Score, vous dites tout de même que cela valait le coup de se battre contre les lobbies agroalimentaires?
Oui, bien sûr. Lorsqu'il a été proposé dans un rapport que j'avais remis à la ministre en 2014, aucune entreprise agroalimentaire n'en voulait et ils ont tout fait pour le torpiller. C'est ce que je raconte dans mon livre, au travers vraiment beaucoup de manœuvres et de manipulations. Et donc, grâce à la pression sociétale, grâce à la pression des consommateurs, des citoyens, grâce à la médiatisation qui a eu lieu, eh bien, ça a permis que certaines entreprises qui étaient opposées finissent par accepter. Aujourd'hui, il y a à peu près 57% des produits alimentaires qui couvrent le Nutri-Score, mais des grandes sociétés comme Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars ou Mondelez, ou Kraft ou Unilever, continuent à le combattre, et notamment au niveau européen.
Marie-Hélène nous dit, lorsque j'étais enfant, nous avions des cours de cuisine et de nutrition au collège, ce qui permettait d'éduquer les jeunes à la bonne alimentation. N'oublions pas qu'il est toujours mieux d'éduquer les consommateurs.
Absolument, ça c'était évident, mais l'éducation n'est pas suffisante. Il faut aussi donner aux moyens de mettre en pratique les connaissances.
Oui, c'est essentiel. Il faut que ça commence dès l'école. Donc, et même in utero. Donc, l'alimentation de la femme enceinte est fondamentale.
Merci à tous. Merci docteur Arnaud Cocol. Merci Franck Terrien d'être venu de Corrèze. Je vous laisse filer au Salon de l'Agriculture. Nous y serons d'ailleurs au Salon de l'Agriculture ce vendredi à 10h. Venez nombreux. Merci professeur Serge Herberg. Mange et tais-toi. Un nutritionniste face au lobby agroalimentaire, c'est publié chez Humaine Science. Merci d'être venu et merci, docteur Adrien Chaboch. Demain, une émission consacrée à l'hypersensibilité.